Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Tout de suite le journal, présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, la vive réaction de la Russie au propos d'Emmanuel Macron hier soir dans son allocution. Pour le Kremlin, la France veut que la guerre continue et ses propos sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. Place maintenant à un sommet extraordinaire de l'Union européenne ce jeudi à Bruxelles. Alors que les Américains se désengagent en Ukraine, les Européens sont appelés à surmonter leur division pour pallier ce départ. La Chine promet qu'elle se battra jusqu'au bout si les États-Unis poursuivent leur guerre commerciale. Elle dénonce un bras de fer qui déstabilise l'économie mondiale. Dans ce journal aussi, du football, avec le grand malaise des arbitres en France. L'entraîneur de Lyon est lourdement sanctionné pour avoir menacé l'un d'eux. Aujourd'hui, tous les regards sont donc tournés vers Bruxelles, où se tient un sommet exceptionnel à l'heure d'un tournant majeur dans le conflit ukrainien, le désengagement des États-Unis. Les 27 sont appelés à surmonter leur division et à réagir. Rester spectateur serait une folie, a dit hier soir Emmanuel Macron dans son allocution. Il a aussi dit vouloir ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par le parapluie nucléaire de la France. Des propos sur la menace que représente la Russie pour l'Europe vivement critiqué ce matin à Moscou. Le Kremlin dénonce un discours dangereux susceptible d'entraîner le continent vers une nouvelle guerre mondiale. Dans une allocution au ton grave sur la guerre en Ukraine, le président français a promis hier soir de nouveaux investissements militaires sans augmentation d'impôts. De quoi ouvrir un débat sur de nouveaux arbitrages budgétaires à venir. Raphaël Delvolvé, dans chaque camp, on avance ses idées.
Le président l'a dit hier soir.
Il faudra des réformes, des choix, du courage.
Et ce matin, le Premier ministre assure avoir reçu le message. François Bayrou dit vouloir faire des choix prochainement, sans tout sacrifier.
La défense est désormais une priorité évidente, mais ça n'efface pas d'autres priorités. Le souci des finances publiques, le souci du pacte social.
La situation est délicate au moment où la France cumule plus de 3300 milliards d'euros de dettes. À gauche, c'est tout trouvé. Pour socialistes et insoumis, il faut taxer les plus riches et surtout ne pas toucher au social. L'eurodéputé LFI Manon Aubry sur Europe 1.
S'ils refusent d'augmenter les impôts des plus riches pour financer la guerre, alors quels vont être les sacrifices sociaux qui vont en découler.
À l'extrême droite, on déroule des propositions souverainistes et anti-européennes. Le député RN Sébastien Chenu ce matin sur TF1.
Une France forte, c'est l'abandon par exemple du Green Deal. C'est l'abandon du marché européen de l'électricité.
Pas de réelle proposition de réforme pour le moment. Mardi dernier, le ministre de l'économie mettait le sujet du travail sur la table. Éric Lombard sur France Info.
La faiblesse relative de la France comparée à d'autres pays européens, c'est qu'on n'a pas assez de Françaises et de Français au travail.
Ouvre-t-il la porte à de nouvelles réformes de l'assurance chômage ou des retraites? Réponse prochainement. Hier soir, le président Macron demandait aux partis de faire des propositions.
Raphaël Delvolvé du service politique. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz, partisan de lourds investissements en matière militaire, a rencontré ce matin à Bruxelles le président du Conseil européen, Antonio Costa. Autre participant au Conseil exceptionnel qui s'ouvre en cette mi-journée, Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien appelle à ne pas relâcher la pression sur Moscou au lendemain d'une frappe russe sur un hôtel de Kryvyi Rih. C'est dans le centre, la ville natale de Zelensky. Il y a, selon les autorités, 4 morts et plus de 30 blessés. Cet hôtel abritait des humanitaires américains et britanniques qui sont indemnes. Des milliers de délégués venus de toute la Chine sont réunis cette semaine à Pékin, où se tient en grande pompe la session annuelle du Parlement. En marge des travaux, les autorités ont réagi au décret de Donald Trump imposant de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises. Ce nouvel acte de guerre commerciale perturbe l'économie mondiale, mais nous nous battrons jusqu'au bout, a réagi le ministre chinois du commerce. Sport maintenant, football. On attendait une sanction lourde à l'encontre de Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon, après son face-à-face musclé dimanche avec l'arbitre du match Lyon-Brest. Olivier Prend, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Le technicien portugais de l'OL a effectivement pris ce qu'il y a de plus lourd.
Ah, et le maximum du maximum, Gilles. La commission de discipline de la Ligue professionnelle a clairement sifflé la fin de la récréation et envoyé un signal fort. et ferme après les débordements inadmissibles envers le corps arbitral ces dernières semaines, notamment ceux du côté de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, le directeur sportif, puis il y a 10 jours, Pablo Longoria, le président délégué, pour son tête-à-tête d'une folle agressivité envers Monsieur Millot, en lui hurlant dessus. Paolo Fonseca a donc pris le maximum, 7 mois d'interdiction de banc de touche. Mais, me direz-vous, pourquoi alors est-il suspendu jusqu'au 30 novembre? Nous sommes en mars. Parce que les sanctionneurs, pour être plus durs encore, ont décidé que ces 7 mois d'interdiction seraient des mois de compétition. Or, comme on ne joue pas en juillet, en juin et en juillet, bah, ces 2 mois-là sont reportés à l'automne. Et tout ceci est assorti d'un malus. Et oui, Paolo Fonseca sera également interdit du vestiaire de l'OL avant, pendant et après les rencontres jusqu'au 15 septembre. De quoi entraver totalement son métier d'entraîneur. Il fallait frapper fort, très fort, tant les débordements récents renvoyaient une image désastreuse vers le foot amateur, celui du dimanche matin, et puis vers les plus jeunes surtout. C'est fait et c'est donc aussi lourd qu'inédit.
Alors, ce qu'il faut noter aussi, Olivier, c'est que l'Olympique Lyonnais fait bloc derrière son entraîneur, estimant la sanction disproportionnée.
Paolo Fonseca s'est excusé tout de suite. Il a réitéré hier, depuis son hôtel à Bucarest, il était en visioconférence avec la commission d'éthique. Il a réitéré ses excuses. À Bucarest, il y est parce que l'OL va jouer ce soir son 8e de finale de Ligue Europa contre le Steaua Bucarest. Sera-t-il d'ailleurs sur le banc? Cette fois, c'est la Fédération française qui doit le décider. Joueurs, staff et dirigeants, en tout cas, font corps avec le technicien portugais. Pas question de s'en séparer alors qu'il est arrivé fin janvier. Tout indique qu'un recours sera déposé pour réduire cette sanction. Éventuellement un appel au CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Voire ensuite, pourquoi pas, prendre la direction des tribunaux. Tout est possible. Tout ceci s'est donc passé hier. Et vous savez quoi, Gilles?
Allez-y.
C'était son anniversaire à Paolo Fonseca. 52 ans, il s'en souviendra en comprenant peut-être qu'il ne faut simplement plus jamais refaire ça.
Signé Olivier Pron. Merci Olivier du service des sports. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, s'envole aujourd'hui pour la Réunion. Île française de l'océan Indien, frappée la semaine dernière par le cyclone Garance. Le bilan est toujours provisoire. Au moins 5 morts et d'importants dégâts dans le nord et l'est de l'île. Alors que les habitants sinistrés seraient 50 000, dont les Réunionnais les plus mal logés. Ce sont eux qui paient le plus lourd tribut. Reportage à Saint-Denis de Lola Fourmi.
20 cm d'eau dans sa buanderie, un frigo bon à jeter et une voiture ruinée, puisque dans le parking de la résidence sociale où vit Michel, l'eau est montée jusqu'à 1,60 m. Le locataire voit donc ses investissements s'envoler.
Ah, j'ai mis tout pendant Covid, j'ai mis les pièces, changé les boîtes de vitesse, tout ça arrive au moins plus que dans les 2000, 2005 après. Voilà. On n'a pas la richesse chaque fois prendre une voiture, tout le temps.
Si Michel préfère garder le sourire, le président du comité droit au logement 974, Jean-Yves Sinimalé, arpente les différents logements et fait face à d'autres réactions.
Ah, moi, les gens effondrés. Moi, hier, j'ai vu les gens effondrés. Même une dame hier, vraiment, qui se mettait à crier, à hurler. Hurler de colère. Parce que c'est pas normal qu'on les abandonne, etc. Voilà. Et on ne coûte pas assez les habitants. Parce que les habitants, quand ils vivent dans leur quartier, ils connaissent mieux que les élus ou les collectivités.
Même son de cloche à la Colline, quartier bas de la rivière, où une 50aine de familles vivant en zone rouge ont vu l'eau monter et dévaster leur maison. Aujourd'hui, elles craignent de devoir partir, mais n'en ont pas forcément les moyens, comme l'explique Patrice, dont la famille vit là depuis 1962.
J'ai pas le moyen d'avoir ce que je veux. J'avais des animaux et tout ça. J'ai déjà le crédit que j'avais fait chez la maison. Il me reste 30 000 euros à payer. J'ai pas le moyen.
Le cyclone Garance n'a finalement que remis en lumière le problème du mal-logement et du foncier à La Réunion. Mathieu Ouarot est directeur régional pour la Fondation pour le logement des défavorisés.
Parmi les 18 000 habitations indignes qui sont recensées à travers l'Observatoire Réunionnais de l'Habitat Indigne, on sait qu'on a des territoires, on a des niveaux d'indivision foncière qui sont autour de plus de 30%. Et parmi ces ménages-là, certains n'ont même pas de titre du tout d'occupation. Donc on a une vraie précarité foncière, une vraie précarité sociale qui renforce la fragilité du bâtiment face à ces aléas climatiques et qui pose la question plus largement de comment on lutte contre la précarité qui est structurelle et massive dans nos territoires et pour lesquelles les réponses des pouvoirs publics sont insuffisantes aujourd'hui.
Et il alerte depuis 5 ans sur l'aggravation de la précarité. Pour rappel, 4 Réunionnais sur 10 vivent avec moins de 1 100 euros par mois. Lola Fourmi, Saint-Denis, RFI.
Bientôt midi 10 ici à Paris. Vos prochains rendez-vous avec l'information. Midi 30, RFI midi et 13h, le grand journal. Tout de suite, grand reportage. Très bonne journée sur RFI.